Chapitre 70. 23h32. En arrivant sur les lieux, Rognard distingue d'abord la silhouette de Marie, agenouillée tout au bord du surplomb rocheux face à l'océan. Le faisceau du phare, parasité par le relief irrégulier, n'éclaire que très partiellement ce segment du littoral. Devançant Sam et Kate, Chris accélère encore le pas pour rejoindre la jeune fille. Penchée au-dessus des flots tumultueux, Marie s'époumonne à appeler Edward en contrebas. Sans relâche, elle hurle son prénom, auquel Napoléon réagit en jappant. Mais les bourrasques et le fracas des vagues confisquent ses appels qui se perdent dans le rugissement de la tempête. Alertée par les lampes torches, la jeune fille se relève et se précipite vers ceux qu'elle attendait désespérément. « Il ne répond plus !» s'alarme-t-elle d'une voix cassée. « Voilà maintenant plus de 10 minutes que je ne l'entends plus !» Kate la prend dans ses bras pour la réconforter, pendant que Chris avance jusqu'au bord. Se méfiant du vide, le berger australien reste en retrait, mais s'agite en remuant la queue. Son accueil enthousiaste est d'autant plus démonstratif qu'on jurerait que le chien a compris que Rognard venait aider son jeune maître. Christopher tente d'évaluer la situation. La mer n'est qu'à 6 ou 7 mètres plus bas, mais les vagues sont violentes et inondent les rochers encore émergés d'une écume qui leur ouvre la voie. « Edward est dans la grotte », indique Sam en venant le rejoindre, « juste en dessous, mais une grille empêche d'y accéder. »
« Une grille ?»
Le jeune homme se penche et constate avec inquiétude « Bon sang, l'eau est déjà beaucoup montée depuis tout à l'heure. Je ne l'avais jamais vue à un tel niveau. D'habitude, la cavité se retrouve pour une bonne partie immergée à marée haute, mais avec les coefficients des grandes marées, elle sera probablement complètement engloutie. Dans combien de temps la mer sera-t-elle pleine ? » Sam consulte sa montre. « Dans moins d'une heure, à minuit et demi. Qui pourrait avoir les clés de cette grille ? Aucune idée. Savez-vous au moins qui a décidé de l'installer ? Eux sauront comment l'ouvrir. » Sam secoue la tête. « Je ne sais pas non plus. Elle a été posée après qu'un monsieur est mort en s'y aventurant. » Mark Masterson. « Je ne connais pas son nom, mais depuis, les jeunes du village ont l'interdiction absolue de venir se balader dans le coin. » Rognard estime le chaos rocheux à ses pieds. D'ici, il ne voit pas l'entrée de la grotte, et même si elle n'est qu'à quelques mètres sous eux, les remous marins qui l'envahissent en bouillonnant violemment compliquent sérieusement l'accès. Il place ses mains en porte-voix et appelle à son tour. « Edward ! Edward, c'est Chris !» Même entendant l'oreille dans le sifflement du vent qui se conjugue au grondement de l'océan, Christopher ne risque pas d'entendre une hypothétique réponse. Certaines vagues claquent si fort contre la façade basaltique que les projections d'eau de mer s'envolent bien au-dessus de lui. Il sait qu'il n'y a qu'une solution. « Je vais descendre évaluer la situation par moi-même. » « C'est une pure folie, réagit Kate. Vous risquez d'être emporté par le courant, ou pire, de vous faire projeter contre les pierres. Il faudrait au minimum une corde pour vous assurer. » « Nous n'avons pas le temps, le gamin est coincé, chaque minute compte. » Chris longe le bord pour déterminer la meilleure voie à suivre. Le chien vient gémir dans ses jambes. Rognard lui frictionne la tête et lui murmure à l'oreille. « Ne t'inquiète pas, Napoléon, on va tout faire pour sortir ton humain de compagnie de là. » Après une dernière caresse, Chris se baisse, et en se contorsionnant dans des figures acrobatiques bien inhabituelles pour lui, réussit à s'accrocher aux rares rochers affleurants pour entamer sa descente. Resté au-dessus de lui, Kate l'éclaire et le guide de son mieux. « Vous avez une prise à gauche si vous tendez complètement le bras. Allez, encore un peu, voilà. Maintenant, ramenez votre pied vers vous et vous devriez pouvoir prendre appui. » La roche mouillée est glissante, et l'eau glacée ne tarde pas à détremper ses vêtements et à remplir ses bottes, mais il progresse. Depuis son poste, Kate ne peut bientôt plus le conseiller. « Soyez prudent, Chris !» lui crie-t-elle contre le vent. Rognard n'est pas loin à repérer la grotte. L'entrée est effectivement bloquée par une grille aux épais barreaux dignes d'une prison du Moyen-Âge. La bouche de la caverne est assez grande et la grille en épouse étroitement le contour. S'il se fie à la porte aménagée au centre, l'eau atteint déjà plus de la moitié de sa hauteur. Il s'approche autant que possible par le côté et appelle à s'en briser la voix. « Edward, je suis là, est-ce que tu m'entends ?» Aucune réponse. Il descend encore, entrant dans l'eau jusqu'à la ceinture. La grille n'est plus qu'à moins de 2 mètres. Christopher réfléchit un instant, alors que les flots le harcèlent en le déstabilisant. Le meilleur moyen de l'atteindre serait de se jeter entièrement à l'eau. Chris n'hésite pas. Il saute. L'eau froide le tétanise et lui coupe un instant la respiration. Il commence à nager, mais ses efforts sont contrariés par les ressacs successifs. Il boit la tasse en se débattant comme un beau diable dans le chaudron des éléments. Ballotté, tel un bouchon dont l'océan peut ne faire qu'une bouchée, il entend Kate lui hurler des indications, mais il n'a ni le moyen de les comprendre, ni l'énergie pour en tenir compte. Sa priorité est désormais de garder la tête hors de l'eau. La grille est presque à sa portée, mais elle demeure inaccessible. Se concentrant, Chris cherche à profiter de chaque élan de la marée qui le ramène vers elle. Il coordonne ses efforts et s'active chaque fois qu'il se sent poussé dans le bon sens. Les roches immergées lui défoncent les tibias sans qu'il arrive à y prendre appui pour avancer. Soudain, une vague plus puissante que les autres le projette brutalement contre les barreaux, qu'il réussit à agripper au dernier moment. Il s'y cramponne de toutes ses forces et essaye de stabiliser son souffle. Dans un cycle infernal, les vagues l'écrasent tour à tour contre les barres ou tentent de l'en arracher pour l'attirer vers le large. Chris tient bon. Il parvient à assurer sa prise en empoignant une chaîne qui pend. Il cligne des paupières pour en chasser l'eau salée et constate que la grotte est plongée dans les ténèbres. « Edward ! Edward, réponds-moi » Collé au barreau pendant que la mer continue de s'en prendre à lui, s'usant les yeux à essayer de distinguer l'intérieur de la cavité, Chris est tout à coup envahi par un étrange sentiment. Il a l'impression de connaître cet endroit. La sensation est si troublante qu'il l'analyse d'instinct comme une réminiscence de ses rêves liés à Peter. Il n'a jamais mis les pieds ici, et le peu qu'il en sait lui vient des confidences de Jill Masterson. Pourtant, le lieu lui paraît étrangement familier, jusqu'au bruit métallique de la chaîne qui se balance encore avant d'être noyée. Le ressac de l'océan, le vent dans les branches des rares arbustes qui ont réussi à s'accrocher à la paroi. Il s'ébroue et se ressaisit. Aucune illusion ne doit lui faire perdre de temps. L'urgence est de trouver un moyen de sortir le jeune prisonnier de là. Prenant une longue inspiration, Chris plonge sous le niveau de l'eau sans lâcher les barreaux pour étudier la serrure. Malgré la lumière de la lampe de Kate qui l'aide de son mieux depuis là-haut, il ne distingue presque rien. Les morceaux d'algues brassées et les tourbillons de bulles provoqués par les déferlements l'en empêchent. Il remonte à la surface en claquant des dents. C'est alors qu'il entend la voix du garçon lointaine.
« Je suis au fond !»
Chris exulte. Savoir l'enfant vivant lui redonne toutes les forces possibles. « On est avec toi, Edward » crie-t-il. « On va te sortir de là !»«
Dépêchez-vous, l'eau monte et je suis coincé !»
La joie de Chris est de courte durée, car même lui se rend compte que depuis le peu de temps qu'il se tient au barreau, la marée a encore un peu plus envahi la grotte. L'écho des vagues qui engloutissent la cavité en vidant les poches d'air produit un monstrueux bruit d'évier. « Tiens bon, mon grand, je vais chercher ce qu'il faut !» Résolu à tout tenter, Chris se jette sur le côté pour regagner la paroi rocheuse et remonter jusqu'à ses coéquipiers. Ni la douleur des chocs, ni la résistance des flux n'entament sa détermination. Malgré l'urgence et l'inquiétude, la sensation d'être déjà venu ne le quitte pas. Le sifflement du vent, le tintement de cette chaîne. Pourquoi est-ce si profondément signifiant en lui? Reniard parvient, tant bien que mal, à mener son escalade jusqu'à Sam, qui lui tend la main pour le hisser. Kate l'aide à se relever. Reniard titube, trempé, épuisé. J'ai parlé à Edward. Je crois qu'il tient le coup. Sam et Marie laissent éclater leur joie. Kate est plus réservée. Une chance de tordre la grille ou de forcer la serrure? Peu probable. Chris retire ses bottes pour les vider. Tout à coup, une évidence lui apparaît, une fulgurance. Il sait d'où lui vient cette énigmatique impression de connaître le lieu. « Marie, » dit-il en se tournant vers la jeune fille, « tu vas rester là avec Napoléon, pour qu'Edward ne soit pas seul. Essaye de lui parler, peut-être t'entendra-t-il. » Elle acquiesce. « Sam, file au village aussi vite que tu peux et tâche de savoir qui possède une clé de cette grille. Trouve aussi des cordes. » « Entendu. » Puis, pivotant vers Kate, il poursuit. « Kate, avec l'aide de Rod, je veux que vous rameniez l'autre brute à la taverne. Interrogez-le, si possible, devant Emma et Kenny. Allez-y franchement et surveillez leur réaction. Pourquoi ?»« Parce que c'est sur la cibie de leur voiture que j'ai entendu les sons de cette grotte. Ils écoutent l'endroit, ils le surveillent, certainement depuis longtemps. » Vous pourrez vérifier par vous-même. Vous pensez que les Turnbull pourraient être derrière tout ça? Je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais cela expliquerait beaucoup de choses. Et vous, qu'allez-vous faire? parier qu'on a une vraie chance de sauver le gamin.